C'est comme une vieille habitude, plus ou moins à la même époque, chaque année, on reçoit Bruno Dequesne, le directeur artistique des RIDM, des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Bonjour Bruno.
Bonjour Robert.
Et cette année, c'est une longue édition, 12 novembre, 2 décembre. Vous êtes ambitieux?
C'est très long en effet. Oui. On a décidé ça au printemps, assez tôt dans l'année en fait, parce qu'on savait que ça allait être en ligne
Oui,
en
oui,
bonne
oui,
partie.
oui. Oui, c'est ça, c'est très particulier. Alors, comment ça va se passer en ligne?
En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est dès le début de faire une édition qui était plus longue parce qu'on s'est dit que c'était en demander beaucoup de présenter une centaine de films sur 10 jours en ligne alors que les gens ont leur quotidien à la maison. On sait que ça ne se passe pas de la même façon. Puis l'événementiel est clairement pas le même en ligne et en physique. Donc on avait décidé sur 3 semaines. L'idée, c'est de ne pas surcharger le public avec trop de films en même temps, mais plutôt d'échelonner ça. Donc c'est chaque semaine, il y a une sélection différente.
Oui.
Donc on a séparé ça en 8 sections, ce qui fait que ça nous donne 3 sections la première semaine. Donc c'est à peu près une trentaine de films. La même chose la deuxième semaine, un petit peu moins sur la dernière semaine. Donc l'objectif, c'est de se dire, c'est plus facile de regarder éventuellement une trentaine de films sur une semaine, et ça nous permettait aussi d'éditorialiser le festival
Oui,
encore
oui.
plus.
Oui, parce que au total, c'est tout de même un programme chargé, hein. Il y a quoi? Il y a 109 films, il y a
Exact.
45 pays, et en plus, il y a encore, malgré qu'on soit en ligne, des discussions, des ateliers, des événements autres que les projections comme telles.
Oui, on s'est beaucoup posé la question sur comment accompagner les films, parce qu'on sait que c'est pas évident en ligne. Donc, on a décidé de faire 3 types en fait d'accompagnement. On va faire des dialogues entre cinéastes à la place des Q&A traditionnels.
Oui.
Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer en ce moment en fait là, et qui sont tous préenregistrés. On va faire des tables rondes comme on a toujours fait. On va faire aussi des balados en collaboration avec 24 images qui vont être en fait des émissions dédiées à un ou une cinéaste, donc à la rencontre de l'univers
Oui,
d'une
oui.
personne.
Un peu sur le modèle de ce qu'Alexandre fait actuellement
Exactement,
sur le
c'est un
podcast,
peu
là.
ça, et qui va se
Oui.
terminer sur le film qui est sélectionné, mais ça va pas porter uniquement sur ce film-là,
Oui,
ça va
oui.
vraiment être sur toute la démarche. On va faire aussi des entretiens écrits, donc on essaie de mélanger un peu les possibilités. La chose qu'on fera pas, c'est du direct.
Oui.
Ça, on s'est dit que c'était pas une si bonne idée que ça, parce que c'est très compliqué pour une première fois de le faire correctement si on a le moindre problème technologique, de un. Et de deux, surtout, on s'est dit on peut pas reproduire littéralement un festival physique en ligne. Ça fonctionne pas de la même façon. Donc on sait qu'en salle, il y a une dynamique. Quand on fait un Q&A, les gens réagissent directement. En ligne, si on fait quelque chose de live, qui a deux personnes
Oui,
qui se
oui.
connectent, ou comment est-ce qu'on contrôle en fait les gens, surtout parce qu'on va devoir évidemment utiliser pour la mise en ligne, entre autres, des plateformes de réseaux sociaux, et on sait comment ça peut se dérouler sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un ou un troll, comme on les appelle, décide de tout simplement hijacker
Oui.
le Q&A, ça peut être quelque chose qui va être très désagréable. Donc on est en train de tout préenregistrer là en ce moment.
Oui. Tu as fait allusion au fait que le programme utilise des thèmes. Il y a 8 thèmes. C'est des thèmes qui se sont dégagés de vos visionnements.
C'est un
Parce que,
mélange des deux, en fait,
oui.
parce que c'est effectivement, au départ, on avait décidé très tôt que cette année, on faisait un festival beaucoup pour le rendre le plus accessible possible au public. Donc d'où le fait que les abonnements, tout ça, sont pas très chers pour il n'y a pas de billets individuels, etc. Mais outre ça, il y avait aussi l'idée, qu'est-ce qui parle en fait au public? Et c'est certainement pas la structure traditionnelle en compétition. Pour un spectateur, que le film soit en compétition ou pas, c'est pas si important. C'était vraiment plutôt de l'idée de mettre de l'avant le dialogue entre les films, de les considérer comme des blocs. Et donc on avait décidé très tôt de faire des sections thématiques. Après, bien évidemment, on peut pas au début de l'hiver se dire, c'est sûr qu'on va avoir une section sur la nature, par exemple, avant
Oui.
même d'avoir vu le moindre film. Ça s'est dégagé un petit peu par la suite. Et après, évidemment, dans les sections sont en fait beaucoup plus hétéroclites qu'elles en ont l'air avec le titre. Si je donne un exemple typique, c'est Explorer la nature, qui est exactement le genre de titre qu'on s'attend à voir pour une section sur l'environnement, par exemple, ou documentaire sur l'environnement. C'est quand même une section dans laquelle on a Stray, un film sur deux chiens à Istanbul, qui est mis en parallèle avec un film tourné dans des îles au large de l'Écosse et sur les légendes ancestrales écossaises, un peu mystiques. Sur un film qui utilise que des vidéos YouTube. Enfin, il y a vraiment un mélange d'approches. Donc, c'est pas simplement des films sur des enjeux écologiques.
Je voulais pour les besoins de l'exercice qu'on regarde, par exemple, le premier bloc, celui qui démarre entre le 12 et le 18 novembre, qui s'appelle Confronter l'histoire.
Oui.
Là, il y a 11 films. Il y a plusieurs pays, Colombie, Canada, Afghanistan, Haïti, Mexique. Comment est-ce qu'on équilibre un bloc comme ça, par exemple?
On procède toujours un peu de la même façon. C'est-à-dire, on avait déterminé qu'il y avait plusieurs œuvres intéressantes qui étaient en train d'utiliser soit la façon classique, c'est-à-dire d'utiliser des archives, par exemple, pour faire ressortir un pan méconnu de l'histoire. Donc ça peut être le cas de l'histoire interdite sur l'histoire du cinéma afghan, par exemple, d'Ariel Nasser. Mais il y avait aussi beaucoup de films qui rentraient vraiment en discussion et en confrontation avec les récits tels qu'ils ont été développés jusqu'à maintenant dans l'histoire, avec un grand H officiel. Et là, ça nous intéressait. Donc après, c'était de voir comment on peut mettre ensemble, à la fois prendre en considération la diversité des pays, prendre en considération la diversité des cinéastes aussi, pour que ce ne soit pas un bloc composé entièrement d'hommes, prendre en considération la diversité des approches. Donc par exemple, si on avait quelque chose qui relevait d'une approche un petit peu plus traditionnelle, comme l'histoire interdite, qui est passionnant, mais dans son approche volontairement est plus didactique, si on veut, et qu'on voyait un film comme 499, dans lequel on a un conquistador qui débarque dans le Mexique d'aujourd'hui. Mmh. Donc là, on est un peu entre le documentaire, la fiction, et on avait en même temps Ouverture, qui est probablement un des films les plus intéressants, qui est co-réalisé avec un collectif artistique haïtien.
Oui.
Et où, en fait, c'est vraiment un film qui mélange le cinéma, le théâtre, la performance musicale, pour réfléchir sur l'héritage de la figure de Toussaint Louverture, entre autres. Donc ça, c'est vraiment ce genre de choses qu'on essaie de faire, de les mettre ensemble et puis de voir un peu comment ça peut fonctionner. Et après, d'où l'idée, après, de faire des dialogues entre ces films. Donc, par exemple, un des dialogues qui va être fait, ça va être entre Ouverture et... je ne veux pas dire de bêtises parce que là, c'est un peu trop préliminaire. Puis un autre film, mais en tout cas, dans une autre section. Oui. Donc c'était l'idée à chaque fois de faire en sorte qu'il y ait des dialogues qui puissent se faire entre ces films-là.
Puis pendant la même période, c'est-à-dire la semaine du 12 au 18, il y a deux autres thèmes. Explorer la nature, auquel tu viens de faire allusion, et trouver ses communautés, qui est un peu le monde, la politique, les questions d'identité, les enjeux sociaux de façon générale. Et là, on retrouve notamment cet éole que j'attends impatiemment.
J'imagine, oui.
Comme tu peux imaginer. Ouais. Mais... donc, pendant cette semaine-là, il y a 33 films. Tout de même, quelqu'un qui veut suivre de près, il y a matière. Hein?
Ben c'est ça, il y a quand même matière. Il y a beaucoup de films. Déjà, City Hall, à lui tout seul, fait 4 heures, un peu plus de 4 heures, par exemple. Donc, nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment de se dire, il y a les différentes possibilités. Si quelqu'un veut se consacrer à une section, il y a la possibilité juste de s'abonner à une section. Donc là, dans ce cas-ci, ça signifie à peu près 11 films, mais... La façon dont les sections sont conçues, il faut garder derrière la tête. Ça, c'était aussi une chose qu'on voulait faire cette année, c'était de décloisonner complètement la hiérarchie traditionnelle entre court, moyen et long métrage.
Oui.
Donc, j'aime beaucoup l'idée que, par exemple, dans la section de Wiseman, Trouver ses communautés, on a à la fois quelqu'un comme Wiseman, qui est vraiment une légende vivante, avec un film fleuve, et un premier court-métrage d'un jeune cinéaste journaliste à Radio-Canada ici qui s'appelle Tna Gukunda Deja, qui a fait un film personnel sur ses retrouvailles avec son père rwandais, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est intéressant. Et quand on les présente, en fait, on les présente volontairement par ordre alphabétique. Ça fait qu'il n'y en a pas... Ce n'est pas Wiseman qui est plus important que lui, au contraire. C'est plus... Et dans cette section-là, à nouveau, il y a Wiseman, c'est celui qui est peut-être le plus directement axé sur les enjeux de politique actuelle. Après, il y en a d'autres qui sont sur des enjeux qui sont plus reliés à des enjeux sociaux, en fait, par exemple, comme Les Libres sur la réinsertion sociale des prisonniers, ou Dark City Beneath the Beat, qui est sur la scène musicale engagée afro-américaine de Baltimore. Donc, c'est vraiment assez hétéroclite. Ouais.
J'y vais par semaine pour donner une idée de ces blocs-là. La semaine suivante, réfléchir la dystopie, devenir soi-même et contester le pouvoir. Je veux dire, c'est costaud.
Ouais, dit comme ça, ouais.
je connais pas le contenu. Là.
Contester le pouvoir, c'est une section qui est en fait un dérivé de sections qu'on a déjà eues. C'est le cinéma un peu plus activiste, ou alors qui porte sur des activistes. Donc là-dedans, on peut retrouver autant des films comme En route pour le milliard, le nouveau film de Dieudo Amadi sur des militants au Congo qui réclament réparation pour des crimes de guerre, par exemple, ou Narges A sur une militante algérienne, le nouveau film de Karim Aynous qui avait fait La vie invisible de Rydis Gusmao l'année dernière, son film de fiction. Donc soit c'est des films sur des militants comme ça, ou des militantes, soit c'est des films qui sont engagés dans leur forme elle-même, donc il y a aussi certains trucs qui relèvent du collectif, de la création collective. Devenir soi-même, c'est là où on a plus les questions d'identité, donc c'est là où on va trouver soit des questions d'identité qui sont identité de nature sexuelle, par exemple, donc No Ordinary Man sur un fameux transsexuel qui a été révélé après sa mort comme étant né femme, ce genre de choses, mais aussi même identité personnelle comme Wintopia, le film de Mira Burt Wintonick sur son père Peter Wintonick. Donc là, on est vraiment plus dans une section qui relève du portrait ou de l'autoportrait. Et c'est la même chose toujours avec en essayant de trouver des approches qui sont... Donc c'est pas la section... spécifiquement LGBTQ+, par exemple. Il y en a, mais pas seulement. Il y a un film là-dedans, par exemple, qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle My Mexican Pretzel aussi, qui est entièrement composé d'images d'archives sur une femme dans les années 50, 60, 70, une femme suisse, qui ressemble très, très étrangement à Ingrid Bergman et qui vit une sorte de vie de jet-set, mais qui est très malheureuse. Donc, il n'y a presque pas de son. Il y a quelques sons dans le film, mais c'est... on lit son journal intime et on voit ces images-là. Et en fait, tout ça est une pure fabrication en quelque sorte, mais on ne le réalise que par après. C'est un film assez brillant en fait sur le langage du cinéma, entre autres, et sur l'identité, sur plutôt les défis qu'avaient les femmes dans les années 50, 60, 70. Donc c'est ça, c'est ce genre de choses. Puis réfléchir à la dystopie, le titre, on le trouvait vraiment... très sympa. Et c'est pareil, il y a vraiment un mélange de tout et n'importe quoi là-dedans. Il peut y avoir un road movie japonais sur une sorte de Michael Moore japonais qui rencontre victime de de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte à l'époque, et qui rencontre le porte-parole de cette secte qui existe encore et qui n'a jamais renié ou en tout cas les actes de son leader là, qui a été condamné à mort depuis. Donc c'est une sorte de road movie vraiment étrange entre ces deux personnages, et puis un film tourné en drone en Antarctique où on observe en fait le monde où il n'y aurait plus d'êtres humains, par exemple. Donc c'est vraiment ce genre de section qui nous permet de...
Puis la troisième semaine, il y a deux thèmes, une trentaine de films plus ou moins. Repenser l'intimiste et quoi, survivre à la violence.
Ouais, repenser l'intimité et survivre à la violence. Ouais. Et là, dans les deux cas, bon, repenser l'intimité, je pense que ça s'explique un peu de soi-même. C'est des films qui sont axés sur des enjeux, beaucoup de soit de famille, soit de liens sociaux entre les gens, etc. Et la section survivre à la violence qu'on trouve intéressant, c'est aussi que ça mélange plusieurs cas de violence. Là, juste pour donner deux exemples très rapides, il y a un film comme Purple Sea qui a été filmé par une artiste. Qui en fait a coulé en traversant la Méditerranée là, comme migrante, et en fait elle a tout filmé en GoPro pendant qu'ils étaient en train de couler. Donc il y a un film comme ça qui est vraiment extrêmement troublant. Puis on entend ça, on a son récit aussi semi-poétique en voix off sur une possibilité de vie et d'avenir. Et un premier long métrage comme Night Shot, qui est premier long métrage d'une jeune cinéaste chilienne sur les conséquences de son viol, en fait, et qui pareil est sous forme de journal intime. Donc c'est deux types de violences, on s'entend, qui sont très très différents, mais ça donne un peu une idée du spectre qui est exploré dans ce genre de section.
Oui, mais écoute, tu nous en mets beaucoup sur la table. Hein. Mais je me souviens qu'en conférence de presse, tu disais ce qu'on pourrait dire habituellement des RIDM, d'ailleurs, que ce programme-là, c'est une réaction à notre réalité. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est une réalité à la fois assez difficile à saisir, qui est complètement éclatée quand mm-hmm. on écoute les descriptions que tu nous en fais. Une chose que je voulais souligner, c'est que le cinéma québécois est très présent dans cette édition-là mm-hmm. Des rendez-vous. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai, notamment le film de Jean-François Lesage,
exact, oui.
qu'on attend depuis longtemps et qui a été vu un peu ailleurs.
Qui a été vu un peu partout, effectivement.
Oui, sauf,
qui a fait
sauf ici.
Oui. Il y a une bonne sélection au niveau local, national. Il y a le film de Jean-François Lesage, il y a aussi le film de François Jacob, il y a le premier long métrage de Michel Latimer, qui est l'Indien Malcommode, par
oui,
exemple.
Oui, oui, oui.
Et c'est intéressant parce que c'est, encore une fois, c'est plein d'approches très, très différentes. Prière pour une mitaine perdue est intéressant à voir rétrospectivement, finalement, parce que c'est dans la continuité de la démarche de Jean-François. Donc, il va à la oui. rencontre de gens en prenant pour appui, cette fois-ci, le bureau d'accueil des objets perdus de la STM.
Oui, oui, oui.
Et en fait, tout le monde a une sorte de... C'est typique de Jean-François Lesage. Il va utiliser quelque chose qui relève un peu de l'anecdotique pour finalement écouter les gens parler de qu'est-ce qui leur manque, en fait, dans la vie. Est-ce que c'est les liens sociaux? C'est beaucoup des questionnements, souvent des questionnements existentiels. C'est une sorte de...
La rivière perdue était exactement ça.
Complètement comme ça. Oui. Tourner dans un noir et blanc un peu intemporel de Montréal. Puis à l'extrême inverse, l'Indien Malcommode, c'est adapté d'un livre très revendicateur et très critique des rapports historiques et encore actuels entre autochtones et settlers, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas vraiment de terme francophone, en fait, pour donner l'équivalent de ce terme-là. Oui. Et donc, pareil, lui qui utilise une forme complètement hétéroclite, là où on a parfois des scènes qui relèvent un peu de l'entrevue, d'autres qui sont plus du cinéma direct, d'autres qui sont un peu une sorte de reconstitution. Donc, c'est très éclaté au niveau de la forme. Ça va être vraiment intéressant de voir toutes ces démarches-là. Puis on va essayer justement de les accompagner en faisant des entretiens.
Alors, même en ligne, ça va être une bonne année?
Ah ben, nous, on est contents. Après, oui. Là, c'est vraiment...
En tout cas, il y a du pain sur la planche, Bruno.
La grande question pour tout le monde, c'est effectivement, on ne peut pas reproduire l'événementiel en ligne. Ça, on ne peut pas. On en est tous conscients. On espère vraiment que les gens seront au rendez-vous. On sait que ce n'est pas facile pour personne en ce moment. Et on espère qu'on va être capable d'accompagner les films d'une façon différente. On ne peut pas faire les Q&A en live. On ne pourra pas faire les séances en salle. Mais en même temps, on peut donner un meilleur accès. On va être disponible dans tout le Québec. Donc on espère aussi que ça puisse donner envie à des gens de le voir.
On sera là. Merci beaucoup, Bruno.
Merci encore.